Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, le théâtre en ligne n'est pas rentable. Faire un homme bienveillant de soi et construction d'immeubles multirésidentiels. Accessibilité universelle visée plus haut. Bonne écoute.
Le théâtre en ligne n'est pas rentable. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 28 mars 2023 dans Le Devoir. Pour rentabiliser le coût moyen de la webdiffusion d'un spectacle de théâtre pendant la pandémie, il aurait fallu vendre le billet virtuel 12 fois plus cher que les 17 $ demandés. On peut le dire autrement. Pour équilibrer les comptes de la webdiffusion théâtrale et maintenir le prix du visionnement à un seuil relativement bas, il serait nécessaire, selon l'ampleur des créations, de générer de 3 à 10 fois plus d'achalandage en ligne. En plus, un tournage de qualité cinématographique, comme ceux réalisés pendant les confinements, n'offre aucune économie d'échelle. Filmer une pièce entraîne des dépenses supplémentaires pouvant ajouter jusqu'à 50 % du coût de la production scénique déjà engagée. Bref, en l'état et selon des normes élevées de réalisation, la diffusion numérique du théâtre, telle qu'elle a été expérimentée en 2020 et 2021, n'est ni rentable ni même populaire, selon le bilan obtenu par Le Devoir. Le projet de webdiffusion de spectacles avait le soutien du programme Ambition numérique du ministère de la Culture et des Communications, MCCQ. Une subvention spéciale d'$1 million a été affectée à la préparation de cette programmation dématérialisée. La somme a soutenu en bonne partie la captation d'une 20aine de pièces, dont 2 audio, offertes sur 2 ans par les 8 théâtres membres de Théâtres Associés Incorporés, TAI. Le théâtre d'aujourd'hui, Ducep, La Bordée, Denise Pelletier, Le Rideau Vert, Le Quatre-Sous, Le Théâtre du Nouveau Monde, TNM, et Le Trident. La subvention exceptionnelle a également permis de réaliser l'analyse des données de fréquentation in fine. La subvention a soutenu des captations de grande qualité et on est vraiment heureux d'avoir testé cette formule, commente Marc-Antoine Malot, co-directeur général et directeur administratif du Trident, mais aussi président de TAI. En même temps, le constat demeure, le modèle reste à construire. Même en pleine pandémie, alors que le public ne pouvait pas venir en salle, le modèle de webdiffusion n'a pas été du tout rentable. En ligne de compte. Les constats autour de la vidéo sur demande, en théâtre, sont à verser au bilan du grand basculement en ligne des milieux culturels encouragés par les gouvernements ou par la force des choses. Certains secteurs, comme celui des musées ou des archives, ou comme celui des médias d'information, semblent accroître grandement le rayonnement de leurs collections, de leurs productions avec le web. D'autres secteurs peinent encore à rentabiliser l'effort. C'est le cas du livre numérique, dont les ventes reste encore assez marginal. On ne nous force pas à aller vers le numérique, nuance M. Malot. On est encore à réfléchir à la manière de mettre le numérique au service de l'art vivant, On dirait que ce sont deux mondes difficiles à conjuguer. La vingtaine de productions présentées sur écran a attiré plus de 35 000 visionnements pendant les périodes de confinement sanitaire, soit à peu près le nombre de spectateurs en salle pour une seule pièce à l'affiche avec succès et supplémentaire au TNM pendant une saison habituelle. Les données montrent que plus du tiers de ces web spectateurs résidaient à plus de 25 km du théâtre et qu'une petite moitié n'avait pas fréquenté une salle théâtrale en présentiel pendant les deux années précédant la pandémie. Vous écoutez « Le théâtre en ligne n'est pas rentable », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 28 mars 2023 dans Le Devoir. Marie-Claude Hamel, directrice des communications de DUCEP, nuance elle aussi la lecture pessimiste qu'on pourrait faire des données révélées dans le bilan. Oui, ça coûte cher de diffuser en ligne, mais si on arrivait à aller chercher au moins le même nombre de spectateurs en virtuel qu'en salle, soit une moyenne d'environ 12 000 personnes, le modèle serait viable, dit-elle. En tout cas, on ne serait pas très loin de pouvoir financer ce mode de diffusion supplémentaire. Une captation numérique demande autour de 200 000 $. Madame Hamel croit aussi qu'une alliance avec une plateforme bien établie comme Tout.tv ou Télé-Québec.tv pourrait faire gonfler les clientèles. Télé-Québec a, par exemple, diffusé en direct une représentation de la pièce « La face cachée de la lune » de Robert Lepage le 6 février 2021. Revenir à l'essence. Le projet de webdiffusion n'a pas non plus induit de concurrence forte dans le secteur, puisque 85% du public virtuel n'a consulté l'offre en ligne que d'une seule compagnie. Cette donnée peut aussi être lue de manière plus déprimante pour les théâtres. Plus de 8 clients web sur 10 ne sont pas revenus après le premier branchement. Les informations obtenues ne permettent pas de décortiquer la distribution des fonds pour comprendre qui en a le plus bénéficié, des artistes, des techniciens de théâtre ou des compagnies numériques. Une part de l'enveloppe a servi à assumer les coûts générés par les contrats négociés avec les syndiqués devant et derrière les caméras pour autoriser la webdiffusion. Des clauses balisent les éventuelles rediffusions. Les autorisations de relais des pièces québécoises ne valent que pour le Canada. Il y a des limites à pouvoir imiter la diffusion en salle de cinéma des productions de l'opéra du Met de New York. M. Malo explique que, malgré l'échec du projet du point de vue de la rentabilité, certains théâtres continuent de réfléchir à la manière de poursuivre l'expérience de la webdiffusion. Je mentirais si je disais qu'on va tous continuer d'en faire, dit le président de TAI. En tout cas, le Trident ne s'y engage pas pour la prochaine saison. On va revenir à l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire des diffuseurs de spectacles en présentiel et pas en virtuel. 33 captations de spectacles diffusées à Télé-Québec. Télé-Québec a diffusé 33 captations de spectacles en tout genre, théâtre, danse, musique et même un concert symphonique, depuis le début de la pandémie en 2020. La diffusion s'est poursuivie après la réouverture des salles. Il y a longtemps qu'un passeport culturel de cette envergure n'avait pas été offert au public, a écrit au Devoir Daniel Brassard du service des relations publiques et de presse de la télévision publique. La manne de 33 spectacles comprenait deux captations en direct, la face cachée de la Lune et les étés souterrains. D'autres productions ont été adaptées pour l'écran, dont les Hardings, La nuit du 4 au 5 et Embrasse. L'effort exceptionnel a été rendu possible par le versement d'un budget supplémentaire du ministère de la Culture et des Communications. La diffusion de spectacles va se poursuivre en 2023-2024, peut-être avec de nouvelles diffusions en direct, mais rien n'est encore arrêté. Le dernier budget a aussi accordé une somme de 101 millions sur 5 ans à Télé-Québec pour la production originale d'émissions pour la jeunesse. C'était « Le théâtre en ligne n'est pas rentable », un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 28 mars 2023 dans Le Devoir. Un homme bienveillant de soi. Un texte de Alexandre Vigneault, paru le 21 mars 2023 dans La Presse. La masculinité n'est pas une maladie, mais il y a des façons d'être un homme qui causent bien des maux aux gars et à leur entourage. Dans La masculinité antitoxique, paru chez Trécaré, Michel Doré fait le tour de la question et propose un plan d'action aux hommes de bonne volonté. Le discours au sujet des hommes change et des voix s'élèvent ici et là pour les inviter à se transformer. Le journaliste Michaël Bergeron l'a fait en janvier dans Cocorico, essai convivial, dont le sous-titre est « Les gars, faut qu'on se parle ». Revoici maintenant Michel Doré, éminent sociologue de l'intimité et de la sexualité, avec une proposition semblable. Inviter les hommes à se regarder dans le miroir et à prendre acte de ce qui, dans leur façon d'être ou d'agir, doit changer pour qu'ils puissent être des agents positifs dans leur entourage. On n'est pas condamné à être toxique, précise d'emblée Michel Doré. Ce sont les comportements qui sont toxiques, pas les personnes. Ça revient beaucoup dans le livre, et c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Sans être une somme des travaux du sociologue, la masculinité antitoxique bénéficie visiblement de ses nombreuses années d'intervention sociale et de ses décennies passer à enseigner et à faire de la recherche. Il brosse un portrait nuancé des hommes et de leurs comportements nocifs, en détaille les impacts sur eux-mêmes et sur les êtres qu'ils aiment, mais sans jamais verser dans la culpabilisation. Il nomme la violence, le sexisme, le manque d'introspection et bien d'autres choses encore dans un seul but, inciter au changement. Il y a une grande différence entre culpabiliser quelqu'un et le responsabiliser. Si je juge que quelqu'un est coupable dès le départ, ça ne va pas changer ses comportements, estime l'essayiste qui a pris sa retraite de l'enseignement il y a un peu moins d'un an. Virilité toxique. La masculinité antitoxique revient sur des éléments connus. La difficulté qu'ont les hommes à gérer leurs émotions, à demander de l'aide, à s'affranchir de vieux stéréotypes associés à la virilité, la force, la compétitivité, etc. La pression sociale, qui fait que les garçons et les hommes incitent leurs semblables à rentrer dans le rang de la masculinité. Or, Michel Doré insiste sur un détail. Ce n'est pas la masculinité le problème, c'est la virilité. Il y a beaucoup de façons d'être masculin. Les jeunes hommes, surtout, ont parfois des façons plus excentriques d'être masculin, relève-t-il, en citant Harry Styles, Timothée Chalamet et Hubert Lenoir, qui intègrent tous une part de féminité ou d'androgynie. On voit désormais que la masculinité est plurielle, alors que la virilité est souvent définie comme l'envers du féminin, selon Michel Doré, sociologue et essayiste. Sans défendre une vision binaire des choses, Michel Doré expose à quel point le rejet de valeurs ou de comportements dits féminins, parce que socialement encouragés dans l'éducation des filles, manque aux hommes qui adhèrent à une vision toxique de la virilité. Ils pensent à l'empathie, à la compassion, à l'expression de l'intimité, à l'écoute et à la patience. Les gars finissent par l'apprendre, c'est vrai, reconnaît-il, mais souvent un peu tard. Cet homme antitoxique, c'est d'abord un gars qui apprend à contrôler ses émotions négatives, sa colère qui peut virer en violence, à se regarder dans le miroir, plutôt que de rendre les femmes responsables de son malheur. Il pense notamment aux célibataires involontaires, aux discours misérabilistes et revanchards. Et plus largement, c'est un homme soucieux d'agir activement pour favoriser le respect et l'égalité entre les gens et les genres. On a besoin d'hommes bienveillants. On veut une société bienveillante, estime Michel Doré. Et les hommes ont besoin de modèles de bienveillance. Il croit que tout être humain peut en aider un autre. Mais il constate aussi que certains hommes ont tendance à n'accorder de la crédibilité qu'à d'autres hommes. Ça ne devrait pas, mais il y a des gars qui accordent de l'importance à ça, dit-il. Plutôt que de juger, encore, il propose aux hommes antitoxiques d'agir en mentor, d'être solidaires de cette marche vers l'égalité, que les femmes ou les minorités sexuelles ou de genre n'ont pas à porter seules. On a vu ce qui s'est passé dans le sport récemment, dit-il, évoquant les initiations humiliantes et les agressions sexuelles au hockey mineur. On a vu que, trop souvent, la solidarité est utilisée négativement. La solidarité, c'est d'abord d'empêcher ton ami de commettre un geste qui pourrait l'envoyer en prison. C'était Faire un homme bienveillant de soi. Un texte de Alexandre Vigneault, paru le 21 mars 2023 dans La Presse. Construction d'immeubles multirésidentiels, accessibilité universelle, viser plus haut. Un texte de Daniel Bonneau, paru le 25 mars 2023 dans La Presse. Lorsqu'il a fondé son entreprise en 2010, Mathieu Lamarche s'est fixé comme objectif de bâtir un gratte-ciel à Laval dans un horizon de 10 ans. Il a frôlé la faillite deux fois, mais il a persévéré, faisant le saut avec succès de la construction d'immeubles multirésidentiels en bois à celle de complexes immobiliers en béton à Terrebonne. 13 ans plus tard, il approche du but grâce, en grande partie, à sa nature optimiste. Devenu tétraplégique à la suite d'un accident de moto en 2002, l'entrepreneur a depuis misé sur ses forces. « Je me suis concentré sur ce que je pouvais encore faire », révèle-t-il. « Cela m'a aidé. J'avais aussi un bon cercle d'amis qui m'a soutenu et ne m'a jamais pris en pitié. Je me suis dit, ou je passe ma vie à me morfondre, ou je me retrousse les manches. C'est sûr que ma formation universitaire d'analyste financier m'a beaucoup aidé. Mon travail est surtout cérébral. Mais jamais je n'ai senti que je n'étais pas à ma place. » Il raconte candidement les obstacles qu'il a surmontés sur son tout premier chantier à Saint-Jérôme. Les clous sur le sol ont percé à répétition les pneus de son fauteuil roulant. Comme la maison unifamiliale comportait des marches, il ne pouvait pas y avoir accès sans aide. Un projet à la fois, il a peaufiné sa stratégie, mettant l'accessibilité universelle et les besoins variés des locataires au cœur de sa réflexion. L'installation d'ouvre-portes automatiques dans l'entrée sert aussi à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, comme une mère avec trois enfants portant plein de paquets, souligne-t-il. L'accessibilité universelle simplifie la vie. Dans le Terra Nova 2, à Terrebonne, des ouvre-portes automatiques donnent aussi accès à la piscine et au sauna. C'est cool! Prochaine étape, la certification Fitwell. Son entreprise, Groupe GDI, a érigé les complexes locatifs Terra Nova et Terra Nova 2 de respectivement 6 et 10 étages grâce à l'appui financier de précieux partenaires. Les immeubles ayant tour à tour été vendus, Mathieu Lamarche et son équipe ont pris un pas de recul pour établir leurs prochains objectifs. Est ainsi née la volonté de viser la certification américaine Fitwell dans leur projet Nevea, soumis pour approbation à la Ville de Laval. Le futur complexe de 15 étages, conçu par TLA Architectes, s'élèverait au nord du marché public 440. C'est facile de tomber dans la complaisance et de suivre une recette qui fonctionne bien. Cette certification nous pousse à nous dépasser et force l'équipe à réfléchir pour aller un peu plus loin. Plein de petites décisions auront au final un grand impact, dit Mathieu Lamarche. Le système d'évaluation Fitwell encourage l'adoption de stratégies ayant des répercussions sur différents plans sur la santé et le bien-être des occupants dans 12 catégories. L'emplacement du complexe, près du transport collectif, l'accès au bâtiment, à pied, en vélo, en prévoyant du rangement, les espaces extérieurs, avec une aire de jeu pour les enfants, un jardin extérieur, d'où la circulation automobile ne peut être vue, la présence de potagers, une entrée principale accessible à pied et donnant sur un jardin, l'aménagement d'escaliers agréables à emprunter, la présence d'une salle d'exercice et la livraison de paniers de légumes, sont quelques exemples d'objectifs qui seront poursuivis afin d'atteindre le premier niveau de la certification Fitwell. Cette dernière, en plus d'encourager l'activité physique, force à se pencher notamment sur le choix des matériaux, la qualité et la circulation de l'air, avec des fenêtres ouvrantes, le confort acoustique, la luminosité et la vue dans les logements. Mathieu Lamarche est par ailleurs en mesure de faire cavalier seul grâce au programme APH Select de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL. Ce programme d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles d'au moins 5 logements, offre des primes réduites et des périodes d'amortissement plus longues, jusqu'à 50 ans, aux promoteurs. Ces derniers s'engagent à offrir un certain pourcentage de logements abordables, des logements accessibles de conception universelle et une performance énergétique de 20, 25 ou 40 % au-dessus du code pour les constructions neuves. Plus le nombre de points accumulés est élevé, meilleures sont les mesures incitatives. Le défi pour le gestionnaire réside dans l'atteinte d'un juste milieu où les bénéfices escomptés engendreront des hausses de coûts nulles ou minimales. Certaines décisions vont de soi, comme celle d'accorder une attention particulière au seuil des portes et aux dénivellations. D'autres choix s'imposent d'eux-mêmes. On a installé un certain nombre de bacs de jardinage surélevés sur le toit du Terra Nova 2 en pensant aux personnes à mobilité réduite, explique-t-il. Mais tout le monde en a demandé pour ne plus avoir à se mettre à quatre pattes. Au Nevea, tous les bacs de jardinage seront surélevés. L'accessibilité réussie, estime Mathieu Lamarche, c'est quand on ne la voit pas. C'était construction d'immeubles multirésidentiels, accessibilité universelle, visée plus haut. Un texte de Daniel Bonneau, paru le 25 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Daniel Veillette et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.